Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'Empire en héritage, c'est le titre d'un roman signé Serge Hayat, roman dont le héros est le fils de Napoléon. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce fils de l'aigle, qui avait d'ailleurs deux frères naturels, le comte Walewski et le comte Léon. Je dis ça pour préciser ce que je disais il y a quelques instants à Jean-Michel Apathy. Ce roi de Rome, qui devait devenir après la chute de l'Empire, duc de Reichstadt, Edmond Rostand l'avait dénommé l'aiglon. Et bien dans un roman qui appartient au genre peu fourni de l'histoire-fiction et qui est un genre très intéressant, Serge Hayat imagine, au prix d'un anachronisme poétique évidemment, que le fils retrouve le père, que Franz s'échappe de son palais viennois pour rejoindre son père à Sainte-Hélène, et c'est l'occasion d'une rencontre qu'on aurait tant aimé voir réellement entre Napoléon Ier et son fils. Belle occasion pour nous d'évoquer l'existence malheureuse de cette victime de l'histoire.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Xavier sur les origines du vélo.
Je trouve décidément cette rubrique de fin délicieusement surréaliste, hein, vous avouerez.
C'est vrai.
Pour le moment, nous allons nous replonger dans une époque où le vélo n'existait pas. Certes, nous allons suivre les traces de Napoléon II, fils de Napoléon Ier.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Jamais aucune naissance n'avait été plus impatiemment attendue par tout un peuple. Et quel peuple ! Les Français d'alors, ce sont déjà 30 millions de sujets répartis en quelques 132 départements, des frontières du Danemark à celles de la Calabre, de Barcelone à Venise et aux confins du Monténégro. À ce grand empire, à son apogée, il convient du reste d'ajouter tous les pays inféodés à la famille Bonaparte et qui communient dans l'épopée napoléonienne, de Hambourg à Naples, de Brest à Varsovie, en passant par Berlin, par Vienne, par Madrid, l'enfant de l'empereur Napoléon Ier et de l'impératrice Marie-Louise est espéré comme une sorte de messie. Alors, avant d'en venir à cette naissance tant attendue, il faut peut-être que je vous rappelle pourquoi Napoléon, qui est à l'époque au pouvoir depuis 12 ans, qui règne depuis 7 ans, pourquoi cet empereur était jusqu'alors sans descendance. Oh, c'est très simple, il se trouve que l'impératrice Joséphine n'était pas parvenue à lui donner un héritier. Et comme elle-même avait eu deux enfants d'un premier mariage, vous savez, l'empereur avait conclu tout naturellement que cette stérilité venait de lui. Et il avait fini par s'y résigner jusqu'au jour où sa maîtresse polonaise, Marie Walewska, vient lui annoncer tout à coup qu'elle est enceinte de lui. Ah, mais là, ça change tout, se dit le conquérant, obsédé par l'idée de sa succession. Tout ça, c'était à l'automne 1809. Napoléon a dû à ce moment-là prendre une des décisions les plus douloureuses de sa vie, celle de répudier, sa chère Joséphine, afin de pouvoir épouser en seconde noces une femme qui lui donnerait l'héritier nécessaire. Restait aussi à choisir parmi les princesses d'Europe. Laquelle ? L'ironie de l'histoire a voulu que le choix impérial se porte sur la petite nièce de l'infortunée Marie-Antoinette, sur la fille de l'empereur François d'Autriche, l'archiduchesse Marie-Louise. À compter de cette union, tout se passe comme Napoléon pouvait l'espérer, si bien qu'au début de l'été 1810, la France et l'Europe, j'allais dire le monde, apprennent que l'impératrice attend un heureux événement. C'est une nouvelle d'une importance capitale, car il s'agit d'un fils, probablement, et en tout cas si c'est un fils, ça va rendre possible ce qui apparaissait un peu comme une utopie, l'installation véritable en France de la dynastie des Napoléons. Si c'est une fille, il faudra recommencer, que voulez-vous. Cette naissance doit ancrer l'Empire dans le temps, elle transforme une création provisoire, elle transforme un état d'exception en une réalité tangible à long terme, une réalité inscrite dans la perspective des générations. Seulement, j'insiste, encore faut-il, pour tenir compte de la vieille tradition monarchique en France, encore faut-il que l'enfant soit un garçon. Curieusement, tout le monde paraît convaincu à l'époque qu'il s'agira bien d'un fils, à commencer par le couple impérial. On se dit qu'après le souverain de la guerre, Napoléon pourrait bien devenir à cette occasion le souverain de la paix. Et l'on décide que dès le berceau, le nouveau-né ceindra la couronne des États du Latium. Il sera fait roi de Rome. Le roi de Rome. Bien avant sa naissance, tout le monde s'habitue à ce titre. Vous imaginez la pression sur les épaules de la pauvre Marie-Louise. Elle doit passer ses journées à prier pour que son enfant ne soit pas une fille. En attendant, rien ne sera trop beau pour préparer cette naissance à vainement. Je peux vous dire que s'il y a de jeunes mamans qui nous écoutent, elles vont halluciner. Le trousseau du bébé se doit d'être 100 fois, qu'est-ce que je dis, 1000 fois ce qu'on a pu voir jadis pour les plus grands princes. Des quatre coins de l'Empire, 9 mois durant, des petites mains besogneuses s'ingénient le jour, la nuit, à filer, tisser, coudre, broder, rebroder, d'or et d'argent, la plus fastueuse layette de tous les temps. Les langes, les bonnets, les bavoirs, tout est paré d'abeilles impériales, de couronnes impériales et de couronnes royales de Rome, bien entendu. Et cette fois, on ne compte pas les articles par douzaines, comme on avait l'habitude de le faire dans les familles royales, ni même par centaines, mais par douzaines de douzaines. Vous imaginez, c'est incroyable. Les bonnes fées de tous les corps de métier vont se pencher sur le berceau du roi de Rome. Parlons-en de ce berceau. Prudhon va livrer un incroyable couffin d'apparat, chef-d'œuvre de nacre et de vermeil. Napoléon vise très haut, il voit très grand pour son héritier. Et déjà, on est en train de poser sur la colline de Chaillot les fondations de ce qui doit, sous le nom de palais du roi de Rome, devenir la plus gigantesque cité interdite du monde. L'empereur a dit « Un Kremlin 100 fois plus beau que le Kremlin de Moscou ». Vous voyez un peu ce... Oh non, mais on est vraiment... Alors, parmi ces trésors dévolus au futur bébé, le moins précieux n'est pas sa propre gouvernante, une véritable grande dame de l'Ancien Régime, puisqu'on a choisi Madame de Montesquieu, que le bébé appellera Maman Q. Elle a l'élégance innée, l'éducation souveraine, le chic inimitable de ceux qui ont fréquenté l'ancienne cour de Versailles. Madame de Montesquieu s'apprête à gouverner à toute une maison constituée sous gouvernante, berceuse, femme de garde-robe, écuyer, huissier, maître d'hôtel, etc., etc. Une véritable armée de pouponnières au service d'un nourrisson qui n'est même pas encore venu au monde. L'issue de la grossesse approche à grands pas. Le 19 mars 1811, l'impératrice commence à sentir les contractions, branle-bas de combat aux Tuileries, il n'est que 7 heures du soir. La nuit promet d'être longue, les dignitaires de l'Empire se préparent à tenir une veille, chacun retient son souffle, alors évidemment il y en a qui sont plus anxieux que les autres. C'est notamment l'accoucheur attitré, le sieur Dubois, que l'étiquette impériale prive de l'assistance d'une sage-femme et qui ne peut même pas compter sur le soutien du célèbre médecin Corvisart. Pourquoi ? Ah mais parce qu'à 10 heures, Corvisart est tout simplement allé se coucher. « Tout se passera bien », a-t-il dit dans un bâillement. Dubois, il faut dire qu'il en avait vu d'autres, lui. Dubois regarde donc Corvisart sortir, consterné. Or, bientôt, il sent la panique le gagner. L'impératrice se sent mal et chose très rare, ça arrive dans moins d'un cas sur 1000. La poche amniotique a crevé. Dubois, la gorge nouée, se précipite chez l'empereur, qu'il trouve plongé dans un bain très chaud, histoire de se détendre sans doute. Napoléon se rhabille en toute vitesse. Il suit l'accoucheur jusqu'au chevet de sa femme. « Comment allez-vous faire ?» demande-t-il au médecin. « Je vais devoir utiliser les fers, sire. Ah mon Dieu, mais quel est le danger ? Sire, il va falloir choisir. Ménager la mère ou l'enfant ? La mère, c'est son droit, dit Napoléon. Avec la mère, j'aurai un autre enfant. Je trouve que c'est ce qui s'appelle avoir l'esprit pratique. Et l'empereur ajoute ces mots magnifiques. La nature n'a pas de loi, monsieur. Faites comme s'il s'agissait d'une petite bourgeoise de la rue Saint-Denis. Conduisez-vous exactement comme si vous attendiez le fils d'un savetier.
L'opéra de Jacques Ibert et Arthur Honegger d'après la pièce d'Edmond Rostand à l'instant sur Europe 1. L'Aiglon, c'était le surnom de Napoléon II. Napoléon II qui va voir le jour. Il est déjà appelé roi de Rome et nous sommes en train de vivre, grâce à vous, Franck Ferrand, l'accouchement.
Sa naissance, alors vous l'entendez, la pauvre Marie-Louise qui hurle de douleur. Madame de Montesquieu s'évertue à la tranquilliser. En vain, Dubois manque de défaillir. Il est blême, il sudise. Les chroniqueurs à grosses gouttes, il refuse d'intervenir sans l'assistance de Corvisart. voyez à quel point... Et l'empereur se fâche. « En voilà assez du bois, dit-il. Je vous ordonne d'accoucher l'impératrice. » Sur quoi Napoléon se replie dans le petit cabinet de toilette attenant. Il est exsangue. L'enfant qui se présente par les pieds va naître au forceps. C'est ce qui s'appelle mal commencer dans la vie, le pauvre. Et quand l'empereur rentre au chevet de son épouse, son fils, car il s'agit bien d'un garçon, présente toute l'apparence d'un enfant mort-né. Certains vont même prétendre qu'on l'avait abandonné par terre sur un tas de couvertures. Vous imaginez, c'est quand même curieux pour cet enfant que l'Europe entière attendait. Alors on a réveillé Corvisart quand même. Il se présente, il baigne l'enfant, il le tapote doucement. Et là, le miracle va se produire. Avec énormément de retard, le nouveau-né prend enfin sa respiration, épouse son premier vagissement. L'empereur en a le souffle coupé. Ça y est, Napoléon François-Joseph Charles, roi de Rome, héritier du plus puissant empire de la planète, est né. Ce roi de Rome est né à 8h du matin, ce mercredi 20 mars 1811. Mars, déjà, Mars le dieu de la guerre qui va marquer sa destinée. La porte de la chambre s'est ouverte et devant la cour assemblée, vous imaginez, tout le monde attend depuis des heures. L'huissier a dit « Messieurs, voici le roi de Rome !» Et tout le monde pleure, pleure de joie. L'empereur envoie ses pages à tous les relais de poste et de télégraphe. On a prévu des coups de canon pour annoncer à Paris l'heureux événement. 21 coups pour une fille, mais si c'est un garçon, 101 coups de canon. Ce qui fait qu'au moment où vers 10h à peu près, les coups retentissent, tous les Parisiens se figent dans la position où ils se trouvaient. Ils comptent 19 coups, 20 coups, 21 coups, attention, 22 coups. Et là, une immense, une puissante clameur s'élève dans le ciel de la capitale. Pendant toute la journée, en attendant les grandes illuminations, les feux d'artifice, etc., ce ne sont que chansons, embrassades dans les rues, chapeaux en l'air, toasts portés à la santé de ce petit roi de Rome. Un enthousiasme absolument extraordinaire qu'on ne revivra probablement pas avant l'armistice de 1918. Aux Tuileries, l'empereur observe la foule en délire, de grosses larmes de joie coulent sur ses joues. Il retourne vers le berceau, il ne peut se lasser de contempler celui qu'il regarde longuement et dit « Je l'envie, la gloire l'attend, alors que j'ai dû courir après elle. J'aurais été Philippe, il sera Alexandre, pour saisir le monde, il n'aura qu'à tendre les bras. » C'est comme ça qu'on voit les choses, évidemment, à l'époque. 7 semaines plus tard, le 9 juin, c'est le baptême à Notre-Dame. L'impérial bambin porte une somptueuse robe au point d'Angleterre. Il arrive à la cathédrale sur les genoux de Madame de Montesquieu, bien entendu, de Maman Q, dans le carrosse de l'impératrice. Napoléon et Marie-Louise suivent dans le fastueux carrosse du sacre. À la fin de la cérémonie, l'empereur prend son fils, le soulève au-dessus de sa tête comme une offrande au peuple assemblé. Une fois de plus, ce n'est qu'un cri d'amour qui s'échappe des milliers de poitrines qui sont là. Tous les témoins pourraient en jurer. Le règne de Napoléon II sera glorieux, sera radieux. La France, enfin réconciliée, va connaître son apogée. À moins que le sort n'en décide autrement. À moins que cet enfant ne soit promis à un avenir tout autre et bien plus sombre. Au moment du 3e anniversaire du roi de Rome, les armées de la 6e coalition, entrées en France depuis 2 mois, se font menaçantes. Les Autrichiens sont redevenus ennemis de la France, ce qui ne facilite pas la position de Marie-Louise, vous imaginez, elle est un archiduchesse d'Autriche. Le 24 janvier, Napoléon a embrassé son fils pour la dernière fois, il ne le reverra jamais. C'est ainsi le 29 mars 1814, toujours ce mois de mars, à 10h du matin, l'impératrice est contrainte de quitter les Tuileries avec son fils en toute hâte devant l'avancée ennemie. Elle va se réfugier à Rambouillet en attendant Blois et le chemin de l'exil. Le petit prince, qui est déjà très, très volontaire et qui parle parfaitement, le petit prince a trépigné, il a pleuré, il s'est accroché au meuble. « Je ne veux pas quitter ma maison, je veux revoir mon papa !» Ce sont des scènes déchirantes. Le convoi de l'impératrice en fuite traverse Versailles au grand galop. Cela représente une dizaine de voitures, dont le célèbre carrosse du sacre, qu'on a cette fois rempli comme une espèce de voiture de déménagement. On a tout mis jusqu'au harnais de gala pour les chevaux. Vraiment, c'est une sortie de scène pitoyable, il faut bien le dire, sous les sifflets du public cette fois. L'immense, le colossal empire est en train de s'effondrer dans la poussière de ce triste cortège. L'empereur a renoncé au trône pour lui-même et pour son fils. Il prend le chemin de l'île d'Elbe. C'est à Vienne que se trouvent désormais Marie-Louise et son jeune fils, dont on nommait le premier prénom, évidemment, pour pour l'appeler désormais seulement François, on dit même Franz à Vienne. Et quand, le 7 mars, toujours mars, 1815, Napoléon quitte son île et remonte jusqu'à Paris, jusqu'au trône pour un second règne de 100 jours, l'ancienne impératrice refuse de le rejoindre. Elle fait savoir au chef de la diplomatie autrichienne, au prince de Metternich, qu'elle place son fils, Franz, sous la protection des souverains alliés contre Napoléon. On en profite pour renvoyer Maman Q dans son pays. Pour le tout jeune prince, le chemin de croix vient de commencer. Oh, qu'il va être long, ce chemin. Oh, qu'il va être pénible. Il faut imaginer le petit prince, il est encore un bébé. Enfin, pas un bébé, mais un tout petit garçon. Et il s'endort sur le grand oreiller qui a été brodé à ses armes. Et savez-vous de quoi il est constitué, cet oreiller? Il est constitué de moustaches, figurez-vous. Des moustaches des anciens grognards de la grande armée qui, le jour de sa naissance, avaient tous coupé leurs moustaches et les avaient envoyées aux Tuileries pour faire l'oreiller du roi de Rome. Vous imaginez ça? Qu'est-ce qu'il va devenir maintenant, ce petit bonhomme déraciné, dépossédé de tout et devant qui on ne prononcera jamais plus le nom de son père? Ce qu'il va devenir, ben d'après vous, un prince germanique, pardi. Après Waterloo et le second exil de l'empereur, à Sainte-Hélène, hein, bien sûr, tout espoir est perdu pour l'étonnant de l'empire. Le petit Franz, le fils de Marie-Louise, duchesse de Parme, apprend à ne plus parler qu'en allemand. Il devient duc héritier de Parme, et même cela, c'est encore trop, puisque le 10 juin 1817, il a seulement 6 ans, Metternich est parvenu à l'écarter de ses droits de possession au duché, ce qui veut dire qu'il reçoit en échange le duché de Reichstadt en Bohême. Alors là, c'est vraiment une compensation dérisoire. Sa Majesté, le roi Napoléon de Rome, est devenu son Altesse Sérénissime, le duc Franz de Reichstadt, petit-fils de l'empereur d'Autriche, et venant à ce titre derrière, je dis bien derrière, les archiducs viennois, grandeur et décadence.
La vie et le parcours de Napoléon II, le fils de Napoléon, on en parle jusqu'à 15h sur Europe 1. Franck Ferrand vous propose de réagir à cette émission. Vous pouvez poser toutes vos questions à Franck et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH ou la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les traces de Napoléon II, qui était roi de Rome avant sa naissance et qui est devenu maintenant son Altesse Sérénissime, le duc Franz de Reichstadt.
Eh oui, il grandit hein, d'ailleurs ce petit duc. On ne peut plus l'appeler bientôt petit duc, puisque à 15 ans, il mesure 1m90. En 1828, son empereur de grand-père, François d'Autriche, très intéressant souverain du reste, mais nous en dirons peut-être un mot tout à l'heure de François d'Autriche, qui était magnifiquement décrit dans le roman. L'empereur d'Autriche le nomme donc capitaine du régiment des chasseurs tyroliens, sauf qu'entre-temps, Franz a retrouvé le petit Napoléon qui sommeillait en lui, si je puis dire, dans un coin de sa mémoire. Il a obtenu l'autorisation de fréquenter les rayons peuplés de fantômes de la grande bibliothèque impériale de Vienne. Et de lui-même, il s'est dirigé vers les ouvrages relatant l'épopée napoléonienne. Alors on a beau lui inculquer, je cite, le souverain usurpateur du trône de France, monsieur de Buonaparte, avait un cœur inaccessible. Lui ne s'est pas détourné de son père. Bien au contraire, il cherche constamment à en savoir davantage. Il réapprend le français tout seul, dans les lettres de madame de Sévigné, s'il vous plaît. Il dévore les mémoires et les souvenirs de tous ceux qui ont écrit sur l'Empire. Il finit par tomber sur le fameux mémorial de Sainte-Hélène et sur les très belles pages où l'empereur déchu s'adresse à son fils quand il aura 16 ans. Il les a maintenant, ces 16 ans, et c'est le plus beau, le plus charmant, c'est le plus attachant des princes autrichiens. Il faut l'imaginer donc très grand, je vous l'ai dit, très blond, très noble, un visage d'archange, un port de souverain. Il monte admirablement à cheval, il valse avec une grâce incomparable, il est si séduisant que toutes les jeunes filles de Vienne, évidemment, se bousculent sur son passage ou sur le passage de sa voiture au Prater, et que ses propres soldats, quand il les passe en revue, oublient la discipline autrichienne, qui pourtant est une discipline très stricte, et l'acclament de bon cœur à longueur de parade. Or, au fond de lui, Franz sait très bien maintenant de qui il est le fils et son nom le hante. Seulement voilà, quand on est seul, en terre hostile, dépossédé de sa propre identité, comment voulez-vous qu'on s'y prenne? Ah, il y aurait bien une façon. Est-ce qu'il va oser s'enfuir? Est-ce qu'il va oser rentrer au pays natal? Osera-t-il se montrer le fils non seulement de Napoléon, mais bien de Bonaparte? Voilà la vraie question. Ce qu'on a tendance à oublier peut-être. Concernant Napoléon II, ancien roi de Rome, devenu duc de Reichstadt, c'est que pendant plusieurs années, la perspective de son retour sur le trône a été considérée de façon tout à fait sérieuse. L'empereur François II lui-même envisageait l'hypothèse de confier une couronne régnante à son petit-fils, bien sûr pas la couronne de France, mais il gardait en quelque sorte France dans sa manche, un peu comme un joker, si vous voulez. Or, en France même, nombreux sont ceux qui à l'époque se rappellent cette filiation et se montrent fidèles à Napoléon II. Le très royaliste Chateaubriand lui-même admet, je le cite, que, je cite, hein, « sa mère lui donnait le passé, son père l'avenir ». Toute la France était encore remplie de générations qui, en reconnaissant Napoléon II, n'auraient fait que revenir à la foi qu'ils avaient jurée à Napoléon Ier. L'armée eut reçu avec orgueil le descendant des victoires. Ce style de Chateaubriand extraordinaire. Alors, il faut que je vous précise qu'en 1815, au moment de la seconde abdication, Napoléon n'a renoncé au trône qu'en faveur de son fils et que, sur un plan institutionnel, les choses en sont restées là. Ce qui veut dire que, pour toute une grosse frange de bonapartistes français, le souverain légitime demeure en pleine restauration des Bourbons, le jeune Napoléon II. L'actualité de ce jeune candidat s'impose au moment de la Révolution de 1830. Vous imaginez, quand on chasse du trône Charles X, toutes sortes de plans sont échafaudés par différents aventuriers, dont la fumeuse Napoléone Camerata, la nièce de l'empereur défunt. Je vous rappelle que Napoléon est mort en 1821, quand son fils avait 10 ans. Alors, de quel œil le jeune duc, autrichien de tête et français de cœur, si je puis dire, de quel œil regarde-t-il l'agitation autour de sa personne? Eh bien, du fait peut-être de son éducation autrichienne, il se montre respectueux des institutions. « Je manquerai au devoir que m'impose la mémoire de mon père si je devenais le jouet des factions, dit-il. » L'aiglon n'en est pas moins torturé au fond de sa conscience. Il est prisonnier d'un carcan de principes et d'orgueil. Bref, il ronge son frein en silence. Il se rend malade et comme toujours dans ces cas-là, c'est sa santé qui se délabre. Autour de lui, on tente à minimiser l'affection pulmonaire qui le ronge. À qui se confierait-il du reste? À l'état-major de son grand-père, composé d'officiers médiocres et qui ne le comprennent pas. Son seul ami s'appelle Prokesh. Il décrit le jeune duc comme, je le cite, un pur sang entre deux chevaux de trait de bohème et un cheval de fiacre italien. C'est terrible. Le prince abandonné souffre en silence. Les médecins, soit nullité, soit malveillance, le soignent pour le foie, alors que son foie va très bien. Il a une tuberculose qui est en train de s'installer en vérité. Alors, on envoie chercher sa mère quand même. On lui dit qu'il faudrait qu'elle accueille son fils, alors elle va l'accueillir au soleil de l'Italie pour qu'il se requinque. Ce serait ça la bonne idée. Sauf qu'on ment à Marie-Louise sur l'état de santé de son fils. Quant à lui, sa fierté de jeune officier, une fierté dont on peut dire qu'il finira par en mourir, lui interdit de se plaindre. Donc pas de soleil italien, simplement la grisaille viennoise. Le 18 mars, décidément toujours ce mois de mars, alors qu'il relève d'une longue convalescence, le duc de Reichstadt fait une sortie à cheval par temps froid et humide. On le voit au Prater dans la soirée, en véhicule, en voiture découverte. Une roue de la voiture se détache sur le chemin du retour. Il doit faire à pied un long trajet et là, il va rechuter. Les médecins le considèrent comme perdu dès le 15 avril. Alors là, quand même, on prévient à sa mère, en Italie. Et Marie-Louise, qui s'est remariée avant de redevenir veuve et qui maintenant est enceinte d'on ne sait trop qui, pour tout vous dire, Marie-Louise n'est pas vraiment libre de ses mouvements. Son fils est déjà presque agonisant. On ne comprend pas bien ce qu'elle attend pour venir le serrer dans ses bras, le pauvre. Quand enfin, madame, comment est-ce qu'on va l'appeler, avec son nouveau titre, la duchesse de Parme, entre dans la chambre de son fils le dimanche 24 juin, il est en train de mourir. Il fait de gros efforts pour se lever. Il tombe dans les bras de sa mère en hoquetant de sanglots. Quelle vie, me direz-vous, quelle fin, les voilà maintenant qui pleurent. Dans les bras l'un de l'autre. François ou Napoléon, si vous le préférez, va mourir le 22 juillet à 5h du matin en étouffant dans ses mains, sans s'en rendre compte, une petite grive qu'il avait apprivoisée et qui est encore empaillée aujourd'hui dans la chambre où est mort le duc de Reichstadt à Vienne. Alors, il y a une esquisse au crayon de Johann Hender qui nous montre la belle figure apaisée du jeune prince sur son lit de mort. Le nez busqué, qui en rappelle un autre, n'est-ce pas? Le front bombé, qui fut celui du grand empereur, s'harmonise avec ses cheveux cendrés et bouclés, ses grands cils, cette bouche bien dessinée qui appartiennent plutôt aux Habsbourg, les maigres favoris qui soulignent La mâchoire, le foulard noué autour du cou appartiennent évidemment à l'époque romantique, comme le destin même de ce prince, promis aux plus glorieuses actions et condamné à la plus totale inaction. Voilà la drôle d'homélie funèbre que la mort dramatique du jeune homme arrache en privé à son grand-père, l'empereur d'Autriche. « Il a bien fait de mourir, dit le grand-père. Sa position en Europe était trop difficile. Il n'aurait pu s'y faire une bonne place sans tout déranger. Sa vie aurait été un danger pour vous autres. Sa mort n'a été un malheur pour personne, à l'exception de moi-même, dit-il quand même. » Entre nous, c'est vite dit, ce roi virtuel, cet empereur de papier, avait su en réalité régner sur les cœurs. Et c'est peu dire qu'il aura été pleuré par tous ceux qui le connaissaient et donc qui l'aimaient. On imagine en particulier le chagrin de sa grand-mère paternelle, la pauvre Letizia Bonaparte, réfugiée depuis longtemps à Rome et qui va recevoir, en ce mois de juillet 1832, une lettre manuscrite de son ancienne belle-fille Marie-Louise adressée à Madame Mère, en annonçant le décès de Napoléon II. Cette vieille femme, elle a 82 ans, a vu l'ascension de ses fils. Elle s'est effrayée d'une fortune unique dans l'histoire. Tous ces gens étaient devenus des rois, des empereurs. Et aujourd'hui, elle apprend que le seul descendant direct de son génie de fils vient de mourir avant même d'avoir pu fêter ses 22 ans. Bonjour Serge Hayat, merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous allons reprendre, bien entendu, revivre la terrible épopée de l'Aiglon. Et puis, grâce à vous, nous allons vivre peut-être une autre version de l'histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, avec vous, Franck Ferrand, nous avons revécu la courte vie, malheureusement, de Napoléon II, surnommé l'Aiglon. Et vous recevez pour en parler aujourd'hui Serge Hayat, auteur de L'Empire en héritage, paru chez Alary Éditions en septembre dernier.
Et nos auditeurs sont très intéressés, visiblement, par le destin de l'Aiglon. C'est Xavier, notamment, qui nous demande via Twitter pourquoi Hitler a fait rapatrier le corps de l'Aiglon aux Invalides. C'est vrai qu'à la fin de 1940, Hitler, sur les conseils d'Otto Abetz, c'est Otto Abetz qui a eu cette idée au départ, a fait retirer le corps du duc de Reichstadt de la crypte des Capucins à Vienne pour le rendre solennellement à la France. Vous savez ce que disaient les Parisiens, parce que c'était une époque où il faisait extrêmement froid et où on avait été obligé de livrer davantage encore de charbon que d'habitude aux Allemands. Et les Parisiens disaient « Les Allemands nous prennent le charbon et ils nous rendent les cendres ». Le 15 décembre donc de cette sombre année 40, en pleine nuit, dans une capitale couverte de neige et rendue déserte par le couvre-feu, la dépouille de l'Aiglon rejoignait celle de l'Aigle, si l'on peut dire, sous la coupole des Invalides. Et l'on peut dire, la cérémonie a été discrète, et entre parenthèses, ça n'est pas un très grand moment de l'histoire de France, cette affaire. Il a même raté son rapatriement, le pauvre Aiglon. Et c'est en voyant sa tombe aux Invalides que vous avez eu, si je puis dire, la révélation en ce qui vous concerne, Serge Hayat.
Oui, exactement. En fait, moi, je suis assez fasciné par le personnage de Napoléon et par ce destin exceptionnel. Et comme beaucoup de gens, en me rendant aux Invalides, j'ai visité les petites cryptes qui sont alentour. Et effectivement, Napoléon II y a été enterré 100 ans jour pour jour. Et pour répondre à votre auditeur, en fait, Hitler était lui aussi un grand admirateur de Napoléon. Et il voulait attirer le maréchal Pétain dans les environs de Paris.
Exactement,
parce qu'il avait absolument besoin qu'une certaine entrevue ait lieu. Et en fait, tout ce dispositif a complètement raté. Toujours est-il qu'aujourd'hui...
Pétain n'a pas fait le voyage, en fait.
Pétain n'a pas fait le voyage. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, quand vous vous retrouvez dans une de ces petites cryptes, autour de cet énorme tombeau de Napoléon Ier, vous avez une pierre tombale toute simple.
Tombeau de Visconti en pseudo-porphyre, qui est une espèce de gigantesque monument à lui tout seul.
Énorme. Et juste à côté, dans cette toute petite crypte.
Dans la rotonde basse, oui.
Dans la rotonde basse, vous avez une pierre tombale toute simple. C'est écrit Napoléon II, roi de Rome. Et alors au-dessus, vous avez une statue. Donc vous levez les yeux pour voir à quoi ressemblait cet aiglon. Sauf que c'est pas du tout l'aiglon qui est représenté en statue.
Incroyable.
C'est une énorme statue de Napoléon Ier en empereur romain qui marche presque sur la tombe de son fils.
C'est incroyable.
Même mort, l'aiglon est dominé par son père.
Même mort, le roi de Rome est dominé par l'empereur des Romains, si j'ose dire. Il y avait vraiment, en tout cas celui des Français, il y avait vraiment une prédestination terrible chez cet enfant. J'ai fait exprès de perdre un peu de temps là-dessus parce que ça me paraissait étonnant. J'ai raconté à quel point les espoirs de tout un empire ont pu accompagner la grossesse de l'impératrice Marie-Louise et la naissance de ce petit roi de Rome. Ça a été une fête quasiment sans exemples dans l'histoire de France. Et puis, moins de 4 ans plus tard, patatras, tout s'effondre, c'est la fin, c'est l'exil, et on a l'impression que ça ne reprendra plus jamais. La vie de cet enfant, puis de cet adolescent, se fera dans une sorte d'oubli, d'exil, d'ostracisme même d'une certaine manière.
Vous avez raison, et ça commence même beaucoup plus tôt que ça. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand il naît, l'aiglon, on l'oublie sur le parquet, c'est Corvisart qui incroyable. Va le ranimer, ce qui est juste incroyable alors qu'on l'attend à ce point. Mais très vite en fait, malgré les fêtes que vous avez mentionnées en 1811 où il y a eu une semaine de réjouissance, en fait l'année 1811, notamment la deuxième moitié de l'année 1811, a connu une météo complètement cataclysmique. Les récoltes ont été totalement détruites et va arriver une période de crise économique et de troubles sociaux extrêmement fortes à la fin de 1811 et au début de 1812 qui fait qu'on va complètement oublier cet aiglon. Pire, en 1812, Napoléon, il mène la campagne de Russie.
Bien sûr, oui.
Et là, en France, il va y avoir une tentative de coup d'État. Le général Mallet va essayer de prendre le pouvoir.
Il faut dire que ce général Mallet vivait quand même dans un asile psychiatrique, ce qui n'est pas triste.
Mais
et
absolument.
Depuis cet asile, avec des compagnons de captivité, donc qui étaient des gens tous plus ou moins un petit peu fêlés quand même, il va réussir pendant très peu de temps, pendant quelques heures, mais quand même il arrive à renverser le gouvernement de Paris et il est au bord du coup d'État.
Il est au bord du coup d'État et en fait le coup d'État va être évité de justesse.
Très, oui.
Mais surtout ce qui est très intéressant, c'est que d'habitude quand on annonce la mort du roi, et là on annonçait la mort de Napoléon Ier, normalement tout le monde aurait dû crier Napoléon Ier est mort,
vive Napoléon II,
selon la formule consacrée. Eh bien pas du tout. Et c'est Frochot qui au retour de Napoléon, qui était très en colère, Napoléon revient très vite et il est très en colère, et c'est Frochot qui au retour de Napoléon aura cette phrase terrible en disant ce diable de roi de Rome, c'est vrai qu'on n'y pense jamais.
C'est terrible.
Et donc c'est vraiment terrible. Et en avril 1814, il est vrai que Napoléon pense à abdiquer en faveur de son fils sans beaucoup insister puisqu'il l'abandonne en 48 heures. Mais en 1815, vous l'avez rappelé,
oui.
Là à ce moment-là c'est différent. Mais ce n'est pas Napoléon qui a l'idée d'abdiquer en faveur de son fils. Il faut que ce soit Lucien, son frère, qui lui souffle qu'avant d'abdiquer, ce serait pas mal que ce soit en faveur de son fils. Donc, ce pauvre
même
aiglon,
le père finit par oublier le fils.
Même le père finit par oublier le fils. Et là, pour le coup, jamais personne, à ma connaissance, n'a suscité autant d'attentes et a généré autant de déceptions et d'oubli.
Et oui, et pourtant, Napoléon avait fait de cette naissance quasiment le but de sa vie. Alors, vous m'avez fait remarquer pendant l'interruption, et c'est très juste, j'ai dit que c'est la naissance du comte Walewski, la naissance de l'enfant de Marie Walewska, qui avait donné à Napoléon la certitude de sa possibilité, de sa fécondité. Mais en vérité, il y avait déjà eu une première expérience, de 2 ans et demi plus tôt, il faut le dire,
avec
la naissance d'un petit Léon.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que Napoléon, vous savez que Napoléon était un grand coureur, et en fait, auprès de sa sœur Caroline, un jour, il avise sa lectrice, Éléonore de la Plagne. Il finit par l'attirer dans son lit, et elle va tomber enceinte, justement, d'un petit Léon, la moitié de Napoléon, dont on pourra reparler plus tard si vous voulez.
Oui,
mais donc,
voilà.
Dès 1806, on sait que Napoléon n'est pas stérile. Et c'est là qu'il
Il en a la forte intuition et qui va être confirmé par la naissance ensuite du comte Walewski.
Et là,
il faut vraiment passer aux grandes décisions. Et ça va être donc la répudiation de l'impératrice Joséphine, le mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise, la naissance de ce petit roi de Rome, un seul enfant, mais qui est un petit garçon bien portant, qui aurait dû devenir normalement Napoléon II. Et la suite, on la connaît. Alors, comment expliquer l'attitude de la famille autrichienne de ce jeune homme, de ce petit garçon dans un premier temps, qui veut absolument faire oublier à l'enfant l'existence même de son père? C'est terrible.
Cette famille autrichienne, elle est extrêmement embarrassée. Et en avril 1814, quand il y a la première abdication, ils hésitent beaucoup. Est-ce qu'on nomme Marie-Louise régente ? Avec l'espoir que François monte sur le trône de France,
ça arrangerait François. On avait oublié le premier prénom.
François, hein. Absolument. Et ça arrangerait bien les affaires des Autrichiens. Sauf que il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. D'abord, ça n'aurait jamais pu arriver parce que l'Autriche avait cruellement besoin de l'Angleterre et de la Russie, et que ni l'Angleterre ni la Russie n'étaient prêts à laisser le trône de France ou quelque trône que ce soit d'ailleurs au fils de Napoléon, tellement tout le monde était terrifié par Napoléon et par procuration. Terrifié de son fils. Il y a une deuxième raison qu'il faut bien comprendre, c'est que chez les Habsbourg, tout n'est pas que politique. La raison d'État et la noblesse du sang font beaucoup. Napoléon n'est qu'un parvenu, à leurs yeux. Quels que soient ses mérites, quelles que soient ses victoires.
C'est Bonaparte, c'est un général.
C'est un général. Et donc, quand contraint et forcé, François Ier d'Autriche, qui était auparavant François II, mais oui. qui sur un empire extrêmement rétréci devient François Ier d'Autriche uniquement.
Devient empereur d'Autriche à ce
moment-là. Devient empereur d'Autriche. Il donne sa fille à Napoléon Ier, qui est son pire ennemi, qui est un parvenu de surcroît. Donc c'est une humiliation très forte. Quel est le plus grand symbole de cette humiliation ?
La naissance
c'est
de cet enfant.
C'est bien sûr la naissance de cet enfant. Et cette tâche, ils n'arriveront jamais à l'effacer.
Et pourtant, on dit que l'empereur François II, François Ier, comme vous voudrez, on va l'appeler François Ier d'Autriche, on dit que cet empereur aimait sincèrement et tendrement son petit-fils, malgré tout. C'est un terrible paradoxe, en fait.
C'est un très grand paradoxe. Et effectivement, moi, dans mon roman, je le décris tel qu'il était, c'est-à-dire vraiment aimant de cet enfant. Mais en Autriche, chez les Habsbourg, la raison d'État prime tout. Pour François Ier d'Autriche, la raison d'État prime devant sa fille, devant son petit-fils. Et d'ailleurs, toutes les archiduchesses autrichiennes, ce sont en fait des élevages de femmes, c'est horrible à dire comme ça, mais ce sont des élevages...
Oui, puisque le principe même de la stratégie des Habsbourg, c'est de régner par le mariage.
Voilà, exactement.
Hein. Donc on veut avoir beaucoup de princesses à marier, enfin d'archiduchesses comme on les appelle là-bas.
Exactement. Voilà. Et du coup, François Ier d'Autriche aime beaucoup son petit-fils, mais néanmoins, il se réfugie derrière la raison d'État. Et surtout, il faut bien le dire, ce n'est pas le vrai maître de l'Autriche. Puisque le vrai maître de l'Autriche, c'est Metternich.
Et voilà. Et là, Metternich, lui, ne veut même pas en entendre parler. Est-ce que Metternich n'aurait pas, par ailleurs, des rapports avec le gouvernement français de Louis XVIII, qui voit Napoléon, bien sûr, mais d'une façon plus générale, tous ceux qui pourraient se réclamer de la flamme impériale, comme ses principaux ennemis ? Est-ce que la France n'a pas un peu forcé la main de l'Autriche dans cette histoire ?
C'est pas sûr qu'elle ait forcé la main de l'Autriche, mais effectivement, vous avez raison, dans ce sens que Metternich a été formé par le plus grand maître du machiavélisme que l'on n'ait jamais
on
connu,
le voit venir.
Qui est Talleyrand.
Talleyrand.
Et Talleyrand, donc Metternich a fait ses classes chez Talleyrand, et donc Metternich est totalement rompu à un machiavélisme total, et il ne poursuit que son but principal au profit de l'Autriche, hein, toujours au profit de l'Autriche, bien sûr.
Alors, quand Napoléon vient à mourir, en mai 1821, son fils n'a que 10 ans. Lui, évidemment, avait, et on va y venir dans un instant, une sorte de passion pour cet enfant qui était loin et dont il espérait qu'un jour il reprendrait le flambeau, sans mauvais jeu de mots. Évidemment, Napoléon meurt avant que son fils ne soit adolescent, mais pour imaginer la rencontre du père et du fils et pour la rendre intéressante, vous avez, et ça c'est toute la licence du poète et du romancier, vous avez imaginé qu'on peut contracter un peu le temps, que l'aiglon aurait pu avoir 15, 16 ans, aurait pu s'enfuir d'Autriche, aurait pu aller rencontrer son père à Sainte-Hélène, et vous avez raconté cette rencontre. Nous y venons dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Avec une émission consacrée à l'aiglon, Napoléon II, cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous recevez Serge Hayat, auteur de L'Empire en héritage, paru chez Alary Éditions, avec cette question en sous-titre, et si l'aiglon avait défié son père ?
Ça, c'est quand même extraordinaire. Il pose beaucoup de questions, et d'ailleurs nos auditeurs nous en envoient des questions. Dominique nous dit qu'il a vu dans la crypte donc des Habsbourg le cœur conservé dans une urne du roi de Rome, mais où est le corps, nous dit-il ? Ben, c'est ce que nous disions tout à l'heure, le corps est aux Invalides, puisqu'il a été restitué par ordre d'Hitler pendant l'occupation. Et puis c'est Brigitte qui nous dit, puisque vous allez évoquer le destin de l'aiglon, une rumeur dit qu'il aurait été aimé de l'archiduchesse Sophie, l'archiduchesse autrichienne, pendant son séjour viennois, et que l'un de ses fils, Maximilien je crois, nous dit Brigitte, aurait comme père l'aiglon justement. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça, Serge Hayat ?
En tant que romancier, j'aimerais tant que ce soit vrai.
Mais vous avez déjà inventé assez de choses comme ça. Hein.
C'est juste. En réalité, l'archiduchesse Sophie, c'est la tante de l'aiglon. Mm-hmm. Elle a 6 ans de plus que lui, donc ils sont très proches.
Ce sera la mère de François-Joseph, hein, bien sûr.
Ce sera la mère de François-Joseph. Et c'est elle, en fait, à défaut de mère, puisque Marie-Louise est uniformément absente de la vie de l'aiglon, c'est l'archiduchesse Sophie qui va être très proche de François sur les derniers mois de sa vie. Voilà. À ma connaissance, et si l'on écoute Prokesh notamment, que vous mentionniez tout à l'heure, qui était le grand confident de l'Aiglon, il est probable que François n'ait jamais eu de relation intime avec le sexe opposé, ou le même sexe d'ailleurs.
Et c'est curieux parce qu'il avait quand même beaucoup de jeunes filles qui ne rêvaient que de ça, parce qu'il était très beau, il faut le dire.
Ah, c'est le type même du héros romantique, un peu velléitaire, grand, blond, cheveux au vent, tout le contraire de son père.
Oui, incroyable d'ailleurs. Il ressemblait de ce point de vue beaucoup plus à sa mère, Marie-Louise, évidemment. Mais il avait quelque chose de son père, c'était cette espèce de nervosité qui, dans le cas présent, s'est retournée contre lui et l'a rongé de l'intérieur, d'une certaine manière. Il aurait pu sans doute faire de grandes choses. Il avait quand même une sorte de vigueur, néanmoins, assez martiale du reste.
Alors, je suis pas sûr de partager cet avis,
non.
En fait. Parce que.
Vous pensez que c'est la légende romantique, ça?
Je pense que c'est un peu la légende romantique, parce que si on essaye de comparer un peu le père et le fils, on se rend compte que, effectivement, tous les deux ont une notion très haute de la grandeur, ils détestent tous les deux la médiocrité. Tous les deux sont des rêveurs, parce que Napoléon est aussi un rêveur. Sauf que, à la différence de son fils, Napoléon exécute ses rêves. Et l'un est extrêmement pragmatique, c'est Napoléon qui n'hésite pas à flirter avec les lignes. Napoléon, il s'est corrompu avec le directoire, il a été le boucher du parti.
Oui, c'est un homme politique, disons les choses, oui.
Oui, exactement, c'est-à-dire que la fin justifie les moyens,
c'est ça,
pour Napoléon.
Oui.
Alors que Napoléon II, et vous le disiez tout à l'heure, on se demandait, est-ce qu'il aurait pu revenir, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose? Probablement que Napoléon II n'aurait jamais pu revenir sur le trône de France, pour plein de raisons. D'abord parce que les Autrichiens et les puissances alliées ne l'auraient pas laissé faire. Ensuite, parce que en France, vous rappeliez que on attendait, il y a eu la publication du mémorial et il y avait des bonapartistes qui essayaient de faire renaître la légende napoléonienne, sauf qu'ils étaient sans vision, totalement désorganisés, c'était des groupuscules. En réalité, rien n'attendait en termes de structure, rien n'attendait vraiment Napoléon II. Mais surtout, la raison principale, c'est le côté idéaliste de François. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives.
Encore une fois, pour ceux qui nous rejoindraient, on appelle François parce que c'était son deuxième prénom et c'était son prénom usuel. On l'appelait François.
Hein. On l'appelait Franz même. Oui.
Franz à Vienne.
Exactement. Et en fait, il y a eu des tentatives d'évasion. Vous rappeliez la Camerata. La Camerata, en fait, c'est la cousine de François. C'est la fille d'Elisa Bonaparte. Et elle s'appelle Napoléon, ce qui est quand même incroyable. C'est un garçon manqué. Et elle va tout faire pour faire évader François. Elle lui envoie des lettres enflammées.
Formidable.
C'est un personnage formidable qui inspire ma Julieta dans mon roman. Et elle va tout faire pour le faire évader. Et une des lettres va finir par tomber entre les mains de François. Que va faire François? Bah, François, c'est un idéaliste, notre Aiglon. Il va commencer à réfléchir, il va se dire mais est-ce que je vais être plébiscité en France? Est-ce qu'il va y avoir un référendum? Moi je ne veux pas faire de coup d'état, il se pose plein de questions. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demander à Metternich ce qu'il en pense. Ce qui est juste incroyable quand on y réfléchit.
Aller se jeter dans la gueule du loup d'une certaine manière. Alors nous allons voir dans un instant ses rapports avec son père, les vrais et ceux que vous imaginez. Avant ça, les rapports avec la mère, c'est assez terrible. Alors on a beaucoup accablé cette pauvre impératrice Marie-Louise. Il faut dire qu'elle n'a pas eu de chance dans sa vie à bien des égards. Mais enfin, est-ce qu'elle a été une bonne mère quand même? Elle est là au moment où il meurt, mais on aurait aimé qu'elle soit là un peu plus tôt quand même, non?
Alors, elle n'a jamais été vraiment là. Même quand l'Aiglon est né, ça n'a pas été une mère aimante. Vous avez tout à l'heure rappelé le fait que sa nounou, on l'appelait Maman Q. Mm-hmm. C'était bien une mère de substitution.
C'était la vraie mère, en fait.
C'était la vraie mère. Et elle n'a jamais été une vraie mère. Elle a des circonstances atténuantes. D'abord parce qu'on l'a jetée dans les pattes de Napoléon. Ensuite, parce qu'il faut bien voir qu'en avril 1814, elle est totalement abandonnée par Napoléon, Marie-Louise. Et elle apprend en même temps, un peu plus tard, quand Napoléon sera sur l'île d'Elbe, elle apprend que Marie Walewska a été rejoindre Napoléon sur l'île d'Elbe. Donc elle est folle de rage. Et quand elle rentre à Vienne, elle est très humiliée. En fait, elle s'est compromise avec l'ogre corse. Elle a 23 ans. Et sa vie est derrière elle.
Eh oui.
Et donc, il faut qu'elle refasse sa vie. Et donc, elle reprend tout à zéro d'une certaine manière.
Et cet enfant est là qui lui rappelle son passé, justement.
Et elle n'en veut pas. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle part à Parme avec le comte Neipperg. Elle aura même deux enfants du vivant de François.
Qui était borgne, le comte Neipperg.
Elle épouse le comte Neipperg dès que la nouvelle de la mort de Napoléon est connue en 1821. Mais bien avant de l'épouser, en 1817 et 1819, elle a déjà fait un demi-frère et une demi-sœur à François qui n'est même pas au courant. Pourquoi? Parce que François est tout seul dans les grandes pièces un peu tristes de Schönbrunn.
Ouais, c'est quand même terrible. Quel destin, vraiment terrible. Alors, il va mourir certes dans les bras de sa mère, mais sans avoir été vraiment aimé ni soutenu par cette mère. On dit qu'il étouffe en mourant cette petite griffe qui donc a été empaillée. Et c'est un très beau symbole, je trouve, parce que lui-même est un peu comme cet oiseau hein, qui n'a jamais pu...
Vous savez ce qu'il dit quand il meurt, François ? Il dit « Ma naissance, ma mort, voilà toute mon histoire. De mon berceau à ma tombe, il n'y aura eu qu'un grand zéro. »
C'est terrible.
Ce qui est terrifiant. Et c'est pour ça que ça me paraissait indispensable de lui inventer un autre destin.
Donc vous avez joué les démiurges, Serge Hayat, disons-le. Vous vous êtes dit, bon, ça c'est la version de l'histoire et c'est pas une version très satisfaisante parce que c'est vraiment trop triste. C'est vraiment trop nul, c'est le cas de le dire. Ma vie, un zéro, dit ce pauvre prince. Alors, nous allons lui donner une deuxième chance. Nous allons le faire quitter Vienne, alors dans des conditions qui sont picaresques, hein. C'est un vrai roman d'aventure, il lui arrive toutes sortes, il fait des rencontres, il lui arrive toutes sortes d'aventures. Il va finir donc par... Alors vous imaginez, c'est là qu'il y a le petit anachronisme, puisque vous imaginez qu'on est encore sous Louis XVIII, parce qu'il faut que son père soit en vie, bien sûr.
Exactement, hein. mon action se passe en 1821, et vous avez raison, j'imagine que François a alors 16 ans, ce qui dans la réalité n'est pas le cas, et j'imagine surtout qu'il va pouvoir vivre un voyage initiatique pour lui permettre d'accomplir ce qu'il aurait pu être.
Et il va faire ce long cheminement jusqu'à Sainte-Hélène.
Oui.
Alors, en plus, quand il arrive à Sainte-Hélène, ça n'est pas comme le retour du fils prodigue. Vous imaginez une arrivée par la petite porte, si je puis dire. Racontez-nous ça.
J'imagine une arrivée par la petite porte, parce que bien sûr, il n'est pas facile pour le potentiel Napoléon II de se balader comme il veut. Donc, il utilise une identité d'emprunt. Et puis, il arrive à Sainte-Hélène. Et là, c'est là qu'on voit tout le génie de Napoléon. Napoléon, à ce moment-là, est en train de construire sa légende. Et Napoléon, depuis le début, pour François, il avait peut-être de l'affection parce que c'était son fils. Mais dans la réalité, pour Napoléon, François est utilitaire. Et François, qui débarque à Sainte-Hélène, imaginez, alors que Napoléon est en train de créer sa légende de martyr, il lui met tout par terre,
en fait. Ça s'affiche tout par terre.
Et donc, du coup, ça m'a intéressé d'imaginer ce qu'aurait pu être cette confrontation père-fils. Parce qu'en réalité, qui aurait pu supporter d'être le fils de Napoléon Bonaparte ? Qui aurait pu répondre aux attentes qu'on attendait du fils de Napoléon ? Probablement même pas Napoléon lui-même.
Eh oui.
Or, Napoléon a laissé son fils partir à Vienne. Il l'a littéralement abandonné. Et ce fils, qui est en fait...
Pourquoi n'a-t-il pas gardé avec lui après tout ? Il aurait pu le garder avec lui.
Il était trop encombrant. Et même quand il est à l'île d'Elbe, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous disiez, Marie-Louise ne rejoindra pas Napoléon.
Ouais.
Elle ne rejoindra pas Napoléon pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a cette histoire de Marie Walewska. La deuxième, c'est parce que Napoléon
parce
lui
elle
demande...
Elle va être à l'île d'Elbe, hein, Maria.
Maria, oui, elle va aller à l'île d'Elbe. Mais Napoléon lui dit, viens... Et viens sans François, car je n'en ai pas besoin. Ce qui est quand même incroyable. Et donc Napoléon, vis-à-vis de ce fils, il a vraiment cette attitude très utilitaire.
Et en même temps, lorsqu'il est, alors là je reviens à l'histoire réelle, lorsqu'il est dans les derniers mois de sa vie à Sainte-Hélène, une grande partie de ses pensées, si l'on en croit Marchand, Bertrand, ceux qui étaient là, Montholon, une grande partie des pensées de l'empereur déchu sont pour son fils et pour cet enfant dont il espère qu'un jour il reprendra en quelque sorte la suite.
Napoléon, quand il est sur la deuxième partie de sa vie à Sainte-Hélène, donc à partir de novembre 1818, comprend qu'il ne reviendra plus jamais. Il comprend que pour lui, c'est fini. Et du coup, à partir de ce moment-là, il se met à créer sa légende. Et tout ce qui va permettre de créer sa légende, y compris son fils martyr, parce que la légende, il va la créer en se disant lui-même martyr. Comme son fils est aussi un martyr, il aide la légende. Donc c'est pour ça qu'il en parle. Toutefois, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un petit passage juste à la fin de la vie de Napoléon. Vous savez que Napoléon, il est mort d'un ulcère à l'estomac. Et on l'a soigné pour tout à fait autre chose. Et au moment de mourir, il appelle Anto Marquis, son médecin, en lui disant « Je pense que vous êtes un médecin complètement nul. »
Oui, mais c'était la vérité.
La vérité. D'ailleurs, il faisait des autopsies, c'était ça son métier, il n'était pas
garçon,
médecin.
Oui.
Et au moment de mourir, il dit à Anto Marquis « Vous savez, vous allez faire une autopsie de moi quand je serai mort. Je vais vous demander un dernier service, puisque vous ne m'avez pas aidé à guérir. Vous allez faire mon autopsie, et si j'ai vraiment un ulcère à l'estomac, qui est ce dont mon père est mort également, je vous demande d'aller tout de suite à Vienne, prévenir mon fils, pour qu'il risque de mourir de la même chose et qu'il faut qu'il se soigne. Et je crois que c'est quasiment le seul mot tendre, vraiment sincère, que Napoléon a vraiment prononcé à l'égard de son fils.
Ah, difficile de ne pas avoir toujours un peu les larmes aux yeux quand on parle de ce diable droit de Rome, comme disait Frochot. Serge Hayat, l'Empire en héritage, et si l'Aiglon avait défié son père, mais c'est même pas et si, c'est que vous l'imaginez, vous le racontez, je ne dis pas comment ça finit, bien entendu. Votre roman est publié, Serge Hayat, aux éditions Alary. Merci beaucoup.
Merci.
Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous dévoile les origines du vélo. Restez avec nous.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Alors c'est une question de Xavier pour vous aujourd'hui, Franck Ferrand. Une question qu'il a posée sur le site europe1.fr. Il désire connaître les origines du vélo.
Le vélo. Le vélocipède, vous voulez dire,
ah oui,
c'est ça.
Voilà,
c'est que ça. Nous appellerons la bicyclette. Alors on appelait ça la draisienne autrefois, figurez-vous, ou la machine à courir. C'est bien la machine
c'est
à courir.
C'est marrant ça.
La draisienne venait du nom de son inventeur, le baron allemand Karl Drais von Sauerbrunn. Ça commence tôt, hein. Ben on est à l'époque de l'Aiglon, justement en 1817. C'est lui qui va breveter l'invention, mais il manque quand même à la draisienne une chose importante. Ce sont les pédales. Vous avouerez qu'un vélo sans pédales, évidemment,
c'est pas
non. Alors, pendant les décennies qui vont suivre, plusieurs Français revendiquent l'invention de ces fameuses pédales, ou plus exactement de la bicyclette. Généralement, on l'attribue cette invention à un serrurier, Pierre Michaud. Ce qui est sûr, c'est que pendant le Second Empire, les vélocipèdes à pédales connaissent un énorme succès auprès de la bourgeoisie. En 1868 se tient la première course cycliste de l'histoire. Ça a lieu à Saint-Cloud, évidemment. Vous imaginez, en 1868, sous l'égide de l'impératrice Eugénie. Quelques années plus tard, en 1884, une entreprise anglaise de machines à coudre invente la toute première vraie bicyclette, la Rover. Les roues ont une taille plus raisonnable, parce qu'avant il y avait une énorme roue avant, une toute petite roue arrière, vous savez. Là, on équilibre un peu les choses, le pédalier se retrouve au milieu, le risque de chute est considérablement minimisé. Et puis, peu de temps après, va arriver le tube creux de caoutchouc gonflé d'air, qu'on n'appelle pas encore le pneumatique, et qui est une invention d'un certain John Dunlop. Et oui, c'est Dunlop qui est à l'origine de ça. Ça va remplacer l'ancien bandage inconfortable, parce que, évidemment, sur ce vélo, vous imaginez ce que c'était que les premiers vélocipèdes, avec cette très grande roue, la selle en hauteur, il fallait avoir un équilibre incroyable.
Les pédales devant.
Les pédales complètement en avant, et qui plus est, pas de pneus sur les roues, donc ça voulait dire qu'on était complètement... On sentait le moindre accident du chemin, c'était quand même très difficile. Donc, le vélo à pneus, merci Dunlop. Aujourd'hui, alors quelle est la différence entre une bicyclette et un vélo? Eh bien c'est Philippe Delerme qui nous l'explique d'une très jolie manière dans son livre « La première gorgée de bière ». Je cite Delerme. « Une silhouette profilée mauve fluo dévale à 70 à l'heure, c'est du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversent un pont à Bruges, c'est de la bicyclette. »